le 7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le mardi 9 novembre. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, un pouce en l'air dans sa combinaison spatiale. Première image de Thomas Pesquet de retour sur Terre, extrait il y a moins de 3 heures de la capsule Dragon, roussie par son entrée dans l'atmosphère. On vous raconte tout dès le début de ce journal, après les autres titres.
Accélérer la campagne de rappel vaccinal, le président de la République s'adresse aux Français ce soir. Économie, immigration, premier débat hier entre les 5 candidats LR à la présidentielle. Et puis un réalisateur, acteur de 91 ans, le 39e film de Clint Eastwood sur vos écrans demain.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50 avec vous Léa.
Oui, comment ça va vraiment sur le front épidémique? Faut-il craindre dans quelques semaines une explosion de cas comme en Allemagne? Faut-il généraliser la troisième dose avant l'allocution d'Emmanuel Macron ce soir? Parole aux médecins, l'infectiologue et chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine. Karine Lacombe sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure, on se retrouve à 8h20, Léa, pour le grand entretien de la matinale avec le président du groupe Les Républicains au Sénat, sénateur de la Vendée, Bruno Retailleau, au micro d'Inter, 01 45 24 7000 pour toutes vos questions au standard.
France Inter. Que va-t-il nous manquer le plus? Les inoubliables photos de la Terre toujours intelligemment commentées ou l'impression d'avoir vécu par procuration la vie en apesanteur? Thomas Pesquet est de retour sur Terre après 199 jours en orbite et nous voici tous un peu orphelins de l'ISS. Bonjour Sophie Bécherel.
Bonjour.
Amerrissage à 4h30 cette nuit dans le golfe du Mexique que vous avez suivi pour nous.
Confirmation of splashdown.
Plongeon confirmé, un retour absolument parfait dans une mer d'huile, ce qui est mieux pour éviter le mal de mer. Premier mot du commandant Shane Kimbrough, encore sanglé dans la capsule noircie par la traversée de l'atmosphère, heureux de rentrer sur Terre. Même si elle s'est faite de nuit, retransmise grâce à des caméras thermiques, la récupération de la capsule a été ultra rapide grâce à des bateaux prépositionnés. Les plongeurs l'ont sanglé puis hissé hors de l'eau et Crew Dragon a été déposé en douceur sur le pont d'un navire de récupération. Ensuite, un à un, les astronautes ont été extraits. D'abord Megan MacArthur, puis Shane Kimbrough, Aki Yoshide, le japonais le plus souriant de la Terre, selon Thomas Pesquet. Et enfin,
and that leaves one more member inside of Dragon. That is Thomas Pesquet.
Le français est sorti le dernier. Pour tous, c'était les premières bouffées d'air frais depuis près de 200 jours. Déposé par trois personnes sur un brancard, le buste relevé mais les jambes allongées, hein, afin d'éviter les étourdissements, voire la chute. Les astronautes sont apparus souriants, levés dans leur combinaison, casque sur la tête, il semblait aller très bien.
Et maintenant, Sophie, qu'est-ce qui se passe?
Rapatriés à Houston par hélicoptère, trois vont y rester. Thomas Pesquet, lui, va monter directement dans un avion militaire pour gagner Cologne en Allemagne, où il arrivera ce soir à 21h30. C'est là qu'il va faire pendant trois semaines sa réadaptation physique, des exercices, un suivi médical pour surveiller son état de santé, mais aussi pour récupérer des données physiologiques post-vol qui vont servir à la science. Il aura ensuite droit à une semaine de vacances avant de repartir à Houston pour débriefer sa mission.
Merci Sophie pour les déjà nostalgiques. Hein. On n'oublie pas le journal de bord de Thomas Pesquet avec vous Sophie qu'on peut réécouter sur franceinter.fr.
Il est 7h04, Emmanuel Macron s'adresse solennellement aux Français ce soir à 20h.
Les Français qu'on a habitués à ces communications présidentielles, la 9e ce soir depuis le début de la crise du Covid. Le président devrait évoquer les retraites et l'économie. Sur la crise sanitaire, une mesure tient la corde, intégrer au pass la dose de rappel pour les plus de 65 ans dans un premier temps. 70% d'entre eux ont déjà eu leur troisième dose. Mais pour les plus jeunes atteints de comorbidité, c'est également éligible. Là, ça patine un peu. À peine 1 sur 5 a eu son rappel. Explication avec Véronique Julia.
Pour aller faire son rappel, encore faut-il savoir qu'on y est éligible. C'est simple pour une personne âgée, moins évident pour une personne qui est en surpoids mais pas consciente de son obésité et qui ne sait pas que son indice de masse corporelle supérieur à 30 devrait la conduire depuis quelques semaines à faire une troisième dose. Anne-Sophie Joly préside le collectif national des associations d'obèses.
En fait, les gens ne se voient pas, ne s'identifient pas comme ayant potentiellement une problématique de poids. Bon d'accord, j'ai peut-être une petite bedaine, mais je ne suis pas obèse. Donc du coup, ils ne se sentent pas concernés. Non.
Il est vrai aussi que les personnes obèses n'ont pu se faire vacciner qu'à partir du 1er mai dernier, quand d'autres patients fragiles ont pu y prétendre plus tôt. Anne-Sophie Joly elle-même n'a reçu sa deuxième dose que fin juin. Elle n'est donc pas encore éligible au rappel.
Il est encore un peu tôt. J'ai pas encore mon quota de 6 mois. Je vais devoir attendre fin décembre pour pouvoir aller me faire vacciner de la troisième dose.
Également éligibles les patients atteints de diabète, mais pour
pour Jean-François Thébault de la Fédération française des diabétiques. Avant de penser au rappel, il faut d'abord aller chercher les 20% d'entre eux qui ne sont toujours pas vaccinés.
Le problème, c'est d'aller vers les patients les plus fragiles, qui sont le plus éloignés du soin, pas seulement pour rappel, mais pour la primo-vaccination.
Les diabétiques étant des patients qui ont besoin de traitement, la Fédération compte surtout désormais sur les pharmaciens d'officine et sur les infirmières qui se déplacent à domicile pour identifier ceux qui ne sont pas encore vaccinés ou qui n'ont pas encore pensé à la dose de rappel.
Et hier soir, la Haute Autorité de Santé a déconseillé l'utilisation de Moderna pour les moins de 30 ans à cause d'un léger risque d'inflammation du cœur. En revanche, Moderna semblant légèrement plus efficace, il est recommandé pour les plus de 30 ans en primo-vaccination et en demi-dose pour le rappel. Et puis le Danemark, lui, va réintroduire le pass sanitaire après 2 mois presque sans restriction. 3 heures de discussion hier soir pour le premier débat entre les 5 candidats, les Républicains à la présidentielle. Une femme en veste rouge, Valérie Pécresse. Les 4 hommes en costume et cravate bleue, Xavier Bertrand, Michel Barnier, Éric Ciotti, Philippe Juvin, pour parler économie, immigration, sans s'étriper, mais sans gagnant non plus, Anne Souhaitemont.
Il l'avait promis, pas de sang sur les murs. C'est d'ailleurs en rassembleur que Michel Barnier entame les débats.
Au lendemain de l'élection, nous aurons à nous retrouver. Et moi, mon idée, c'est que dans ce projet, il faudra qu'on prenne les bonnes idées de chacun.
À ses côtés, Valérie Pécresse joue la carte réformatrice.
Ma vision de la politique, c'est une vision extrêmement volontariste. Il faut avoir le courage de dire et il faut avoir la volonté de faire.
Xavier Bertrand se pose en anti-Macron.
La première décision, ça sera de lancer la construction de 10 nouveaux réacteurs nucléaires. Monsieur Macron, sa politique est un échec.
Xavier Bertrand et Valérie Pécresse alliés de circonstances le temps d'un débat pour lâcher les coups contre le chouchou des adhérents, l'ex-négociateur du Brexit.
Le moratoire, j'ai pas encore très bien compris comment ça fonctionne, mais enfin c'est juste l'immigration.
Personne n'a parlé d'immigration zéro.
Ah bah les gens ont compris ça.
Michel Barnier, agacé.
Alors le moratoire.
Sur le moratoire, je suis heureux d'apporter cette réponse à Xavier Bertrand qui a fait semblant de ne pas comprendre ce que je voulais dire.
Un débat essentiellement consacré aux régaliens, sécurité, immigration. Sans grande différence sur le fond, à une exception près, Éric Ciotti a droit de toute.
Moi, je n'ai pas peur des mots. S'il faut parler de grand remplacement, je parle de remplacement. D'accord.
Pas vraiment de gagnant, mais un candidat fragilisé, Michel Barnier, qui retrouvera ses 4 autres camarades de débat dès cet après-midi sur la tombe du général de Gaulle.
51 ans après sa mort, et il y aura même embouteillage à Colombey. Jean Castex y sera dès ce matin 10h, Anne Hidalgo aussi. L'Église va s'appauvrir, les évêques lucides après les mesures annoncées hier à Lourdes. Les victimes d'abus sexuels seront indemnisées, les dossiers étudiés par une instance indépendante. À sa tête, la juriste Marie de Reims, son portrait avec Delphine Evenoux.
La conférence des évêques de France cherchait un profil similaire à celui de Jean-Marc Sauvé, mais issu du monde judiciaire plutôt que de la haute fonction publique. Ancienne défenseure des enfants, Marie de Reims est spécialiste du sujet dont elle s'empare. Elle a très longtemps travaillé au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, qui dépend du ministère de la Justice où elle est actuellement cadre. Elle a participé à la réforme de la protection de l'enfance en 2016, au premier plan de mobilisation contre les violences faites aux enfants l'année suivante. Marie de Reins est également catholique, longtemps engagée chez les scouts et guides de France, où elle a, là aussi, porté ses questions dès les années 2000. Bourguignonne de 52 ans, elle a déjà pris ses fonctions au sein de cette instance indépendante de réparation, en participant notamment en fin de semaine dernière aux travaux des évêques avec la centaine de laïcs invités à l'assemblée plénière. La conférence des évêques de France lui a promis une totale liberté pour constituer son équipe et les moyens financiers dont elle aura besoin, même si elle-même est bénévole. Les premières demandes de réparation devraient être traité dès le mois de janvier.
Et il faut rassembler 20 millions d'euros, disent les évêques prêts à vendre les biens immobiliers de l'église. À Cannes, la piste terroriste est pour l'instant écartée. Après avoir été envisagée hier matin, un équipage de police attaqué au couteau devant le commissariat de la ville. L'enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat.
Il est 7h09, cellule de crise en Pologne, Anaïs. Des milliers de migrants sont massés à la frontière avec la Biélorussie.
Oui, peut-être 3 à 4 000 réfugiés coincés derrière les barbelés de la frontière. Pour les Occidentaux, c'est une tactique inacceptable de Minsk. L'Allemagne demande à l'Union européenne des mesures pour endiguer l'afflux. Nous serons à Varsovie dans le journal de 7h30. En Géorgie, 40 000 personnes dans les rues de Tbilissi. Soutien à l'ex-président Mikhaïl Saakachvili, emprisonné et en grève de la faim depuis 39 jours. Transféré hier vers un hôpital pénitentiaire, il dit craindre pour sa vie. Encore en bref, la vice-présidente américaine débute aujourd'hui sa visite à Paris. Kamala Harris est pour 5 jours en France. La Seine-Saint-Denis publie aujourd'hui son baromètre des discriminations avec ce résultat sans appel. 90% des personnes pensent que les habitants sont discriminés dans le département en raison de leur couleur de peau, de leur religion ou de leur quartier d'origine. 6 sur 10 en ont été victimes au cours des 5 dernières années. Et c'est presque une fatalité pour ces jeunes que vous avez rencontrés à Rosny-sous-Bois, Gérard Mohamed.
Bonjour, je m'appelle Mohamed, j'ai 14 ans.
Je m'appelle Clara, j'ai 14 ans.
Je m'appelle Taha, j'ai 14 ans.
Et jusqu'à présent, aucun d'entre eux n'a été victime de discrimination, mais Mohamed s'y prépare déjà mentalement.
Moi, je trouve que la discrimination, c'est plus vers les 20, 25, quand on commence à chercher un travail, quand vraiment on commence à rentrer dans le domaine des grands. Quoi.
Le monde des grands et du travail surtout, Taha redoute que ses origines marocaines lui portent préjudice auprès des patrons.
Moi, en fait, je veux un peu travailler dans les trucs de mode, etc. Surtout dans le luxe, et c'est ça que j'ai peur. On me dise non, parce que t'es un arabe, tu peux pas faire ça. Bah, pour eux, les Noirs et les Arabes, c'est un peu, je sais pas comment dire, mais c'est un peu mal vu.
Et puis il y a l'origine géographique, vivre en Seine-Saint-Denis.
Parce qu'en fait, eux, ils pensent que si tu viens du 9-3, etc., bah t'es agressif, tu tapes tout le monde, tu parles mal, oui, voilà.
Si ces jeunes collégiens ont aussi bien intégré le phénomène de discrimination, c'est parce qu'ils connaissent tous une personne au moins qui l'a vécu.
Par exemple, ma mère est secrétaire et elle se fait beaucoup rabaisser par son patron. Une fois, on l'avait appelée bamboulin, un truc comme ça. Mais elle a vraiment rien dit parce que voilà quoi.
Après, elle va se faire virer quoi.
Ouais, elle va pas faire son travail.
Et quand on leur parle de discrimination positive, de quotas en entreprise comme solution, pas question, répondent ces jeunes. On veut du boulot pour nos compétences, pas pour notre couleur de peau.
Reportage à Gérard Mohamed, France Bleu Paris pour France Inter. Voilà de quoi forcer, si ce n'est l'admiration, le respect insatiable. Clint Eastwood, à 91 ans, il signe son 39e film, un western, Cry Macho, un ancien champion de rodéo chargé par son patron de lui ramener son fils. Et Clint Eastwood y interprète le rôle principal, Alexis de Meyer.
Cela faisait près de 30 ans depuis l'oscarisé impitoyable que Clint Eastwood ne s'était pas frotté au western. Le nonagénaire filme ici les grandes plaines arides du Texas et du Mexique. Mais ses savoureuses retrouvailles entre un genre et l'un de ses plus éminents représentants sont un peu gâchées quand on se rend compte qu'on a en fait droit à une énième variation sur l'amitié entre un adulte au parcours de vie cabossé et son fils spirituel. De Grand Torino à Un Monde Parfait en passant par Million Dollar Baby, le cinéaste avait pourtant déjà bien donné. Eastwood, l'acteur, joue le rôle d'un cow-boy vieillissant, mais Eastwood, le réalisateur, aussi est vieillissant. Si l'on en croit les invraisemblances de scénario et les problèmes de direction d'acteur, le personnage de la méchante, par exemple, est digne d'un mauvais téléfilm. Quant à l'ado qui fait le coq et qui se revendique macho, ça tombe bien, son coq s'appelle Macho.
His name is Macho.
Name is Cock Macho. It's okay by me.
Ce road movie initiatique au milieu des cactus n'est malgré tout pas déplaisant. Et il y a bien sûr une belle ironie à voir l'ex-interprète de l'inspecteur Harry encourager un jeune homme à exprimer ses sentiments et même à laisser couler ses larmes.
Tanto tiempo disfrutamos. Et voilà, Cry Macho, et c'est demain au cinéma, Nicolas.
Merci Anaïs Feuga. Le zoom dans 3 minutes en Gambie. Bon élève de la COP.